Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 18 du Tri Show avec toujours des chroniqueurs aussi exceptionnels. Je sais, j'adore ce mot, mais toi aussi tu l'aimes bien mon petit Julien. Et d'ailleurs on commence par toi, comment ça va Julien Pousson?
Je dois dire que je serais peut-être un petit peu triste pendant ce podcast parce que Alex me manque déjà. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai du mal à m'en passer chaque semaine. Donc voilà, je me suis rendu compte que c'était un peu notre Franck Ferrand à nous et il me manque déjà.
Et bien pour le remplacer, on a fait appel à la crème de la crème. Alors on espère qu'il va prendre l'accent canadien, mais on n'est pas sûr que ce soit le même accent. Hein. Et on accueille Jérémy Morel, le patron du French Car. Salut Jérémy, comment ça va?
Salut à tous. non, je l'ai pas l'accent canadien. Ouais, salut à tous. Ça va nickel, merci. Je vais essayer de mettre des te à toutes les fins de mots et puis et ainsi de suite. Voilà, je vais essayer de faire ce que je peux, Julien.
Et puis on accueille avec nous Mike Aigrose, le triathlète longue distance maintenant reconverti dans l'événementiel sportif, dans le coaching et dans le parapente. Ça a été ce week-end le parapente, Mike?
Ouais, c'était une merveille. Météo parfaite, on a volé avec l'école et c'était tout bien. Et du coup, je vais essayer de dire des choses qu'on comprend pas pour remplacer Alex.
Voilà, le ton est donné. Alors, on commence avec tout de suite les remerciements aux contributeurs Buy Me a Coffee de la semaine. Et cette semaine, c'est Fanny qui nous a offert des cafés en provenance de Californie. Donc merci à toi Fanny, elle nous dit ça fait du bien d'entendre du Frenchie et surtout des animateurs experts, francs et marrants. Là je pense qu'elle parle pour moi et merci pour les bons moments. Merci encore une fois Fanny, si vous voulez contribuer au développement du podcast, n'hésitez pas à verser un petit peu d'argent via Buy Me a Coffee, à nous offrir un café via cette plateforme. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors, il y a aussi à suivre hein, Cercle Performance, Mike Aigrose qui a son site, lui, perso, mais pro hein, quand même, et Jérémy Morel avec ses différents réseaux, l'agence MIP et Cercle et le French Chiclard. Voilà un petit peu, vous avez du boulot. À vous de jouer maintenant et on attaque tout de suite les actualités. C'est parti.
Et c'est parti pour les actualités avec le Tour de France qui a commencé. Vous n'avez pas pu passer à travers et puis c'est l'occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir quelques nouveautés.
Le Tour de France qui partait presque de France avec le départ de Bilbao. Alors pas mal de nouveautés ou de choses qu'on avait déjà vues sur certains critériums ou certains tours déjà avec le Bianchi Austré notamment, le 795 dont on a parlé, le look. On a vu aussi quelques disques allégés avec du carbone un peu partout. Si vous voulez le voir, direction UAE Emirates, l'équipe, le prototype de chez BMC aussi, un prototype assez sympa qu'on a vu avec une fourche profilée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Je crois qu'on l'a vu sur le critérium du Dauphiné aussi, Jérémy. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de regarder ça un petit peu?
Oui, le tour, bien évidemment, je regarde. Après, je t'avoue que du côté du matos, c'est une news qui est passée... Plus du côté de la course à pied, par contre, c'est une innovation avec Nike qui a mis au point une veste qui ravira tous les joggeurs en hiver puisqu'elle s'adapte aux sportifs pour être chaude tant qu'ils ne transpirent pas trop. Et en fait, ça s'ouvre petit à petit automatiquement dès lors que le sportif monte en température. Alors en gros, ils ont utilisé un tissu réactif à l'humidité, et par jeu de couture, en fait, la veste crée de véritables petits canaux pour ventiler sous le caouet. Du coup, est-ce que c'est du simple marketing ou est-ce que c'est une vraie innovation? On a hâte de tester sur la chaîne du triathlon pour voir un petit peu ce qu'il en est.
Et on continue au niveau matériel et marque avec Ecoy qui devient partenaire du PTO.
Alors ouais, Ecoy a signé, donc a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le PTO Tour. Et donc, c'est officiel maintenant. La marque française devient donc partenaire casque et lunettes. Donc du pro triathlon organization et contribuera donc au développement de PTO. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour la marque française et pour les Français en général, vu que on le rappelle, c'est une marque française.
Et un autre partenariat bien plus important, mais c'est une surprise, Julien.
Alors ouais, on a appris cette semaine une grosse nouvelle avec un partenariat en or. C'est le French Chiclard qui a signé un partenariat avec la sautiserie. Alors, si vous connaissez pas la sautiserie, je vous invite à aller voir directement sur la page Facebook la sautiserie. C'est du très très gratiné. Hein, et je crois que
j'ai un droit de réponse quand même là-dessus ou
un droit de confirmation. C'est comme tu veux.
Un droit de confirmation. Ouais, alors, c'est effectivement, on a fait le maillot réplica Ricard, le maillot réplica Cochonou et le maillot des chasseurs. C'est la crème de la crème, comme tu l'as dit. La sautiserie, c'est une page. Alors, sur Instagram, c'est la sautiserie de secours parce que Mark Zuckerberg a coupé leurs accès, mais c'est très très culturel, ça se passe sur la place du village et si vous avez 5 minutes à perdre pendant votre échauffement sur Home Trainer, c'est
là. Si vous connaissez pas la Cindy et le Kevin, franchement il faut y aller, c'est à découvrir, donc allez-y. Je sais déjà, Alex nous a dit qu'il était fan en off, donc voilà, allez-y.
Et d'ailleurs on est sold out, hein, y a plus rien en 24 heures, même pas en 12 heures.
Bah, félicitations à toi, c'était le petit créneau pub pour le French Chiclard, mais bravo, moi quand j'ai vu ça, ça m'a surpris. Félicitations. Allez, on passe à l'élection de David Lappartient au CNOSF.
Non, c'est S-O-N-F, selon Alex.
je vois que tu as bien retenu, tu nous écoutes. Oui, a priori, le suspense était quand même mince. David Lappartient a été élu donc à la présidence du CNOSF. Il était membre du comité international olympique et patron de la Fédération internationale de cyclisme. Il a obtenu 80% des voix devant la coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail, Emmanuel Bonnet Oulage. On enchaîne avec deux athlètes qui sont sûrement pas syndiqués, c'est Sam Long et Lionel Sanders qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux un post sur lequel ils partageaient un entraînement. Donc, ils ont fait un entraînement course à pied tous les deux et a priori, ils habitent très proches, mais c'était une des premières fois qu'ils s'entraînaient ensemble. À la limite, moi, je m'en fous de ça, mais est-ce que vous pensez que Sam Long, il a écouté le podcast avec Léo ?
Alors, à mon avis, non, mais j'espère que vous avez écouté ce podcast parce qu'il était quand même légendaire. Et pour info, donc là, ils étaient tous les deux dans l'Arizona, du côté de Tucson, et non Tucson à la française. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote.
Et allez, on enchaîne avec les résultats des compétitions qui ont lieu le week-end dernier. On a eu un petit œil sur l'Ironman Francfort, qui était le championnat d'Europe Ironman pour les féminines.
L'Ironman Francfort, support des championnats d'Europe, remporté par une Américaine, Sarah Trout, et la deuxième, une autre Américaine, Sky Munch. La troisième, Agnieszka Dzierżyk, pardon, qui est la Polonaise, qui prend la troisième place, donc un retour en grâce pour Sarah Trout qui s'impose au championnat d'Europe. Alors bon, on va pas se voiler la face, il y avait quand même pas mal d'absents avec le challenge Ropt qui s'est déroulé la semaine d'avant. Il y avait quand même beaucoup.
Alors, je pense que sur Ironman, ils n'ont pas tellement de droits de décerner ni un titre de champion du monde ni un titre de champion d'Europe, vu qu'ils sont associés à aucune fédération. Donc en général, le titre de champion d'Europe longue distance, il revient sur une course ETU.
Quoi ? Attends, tu veux dire que le champion du monde Ironman, qui sera à Nice, il sera pas vraiment champion du monde ?
C'est pas un champion du monde.
Il gagne le Ironman.
Donc, Yann Frodeno n'a jamais été champion du monde longue distance. Non. Ça, c'est un scoop, Mike.
Ouais,
ça,
mais Yann Frodeno, par contre, il a gagné ce week-end. Et ça, c'est beau.
Oui, mais est-ce que le champion du monde challenge est champion du monde ?
Ah, je pense que oui. Challenge, ça compte. Challenge, ça compte.
Bah, à l'époque où j'ai fait Rhodes, c'était championnat d'Europe. Et du coup, j'avais fait 3, mais c'était un Sudaf qui avait gagné. Alors, son nom, c'était James Kunama. Et du coup, j'avais été du champion d'Europe.
La Suisse, c'est pas dans l'Europe. De quoi tu nous parles ? Tu sais pas ce que c'est le championnat d'Europe, toi ?
Et la France aura eu autant de médailles sur les Jeux Olympiques
que les Suisses. Allez, ça y est, toujours la même rengaine, quoi. Allez.
C'est toujours le même argument. Allez, on enchaîne avec justement un médaillé olympique et qui a une médaille d'or, lui. C'est Yann Frodeno qui a remporté l'Ironman 73 d'Andorra devant un autre Allemand, Jonas Schomburg, athlète plutôt habitué aux cours, notamment aux très courts, surtout sur les T2. Il est vraiment très fort là-dessus, si jamais vous avez eu l'occasion de le voir. Et c'est un Espagnol, Jordi Montraveta Moya, qui finit troisième. Chez les femmes, c'est Ashley Gentle, la numéro 1 mondiale au PTO, il faut le rappeler, qui remporte la course devant Emma Palant-Braun et devant Daniela Kleiser, l'Allemande.
Ouais, ce qu'il fallait noter aussi, c'est la 11e place d'Anthony Coste sur cet Ironman Andorre, et ce qui lui confère un slot pour les championnats du monde à Lahti. Alors, à mon avis, il y a eu un très très beau roll down, et voilà. Mais alors, c'était pas le premier Français, on avait aussi Maxime Rivron qui était 7e, qui a terminé 7e, et également Mathieu Bourgeois, 13e, le champion du monde longue distance de duathlon, qui donc s'est lancé sur ce 70.3, termine 13e. Chez les femmes, on a Nikita Paskevitz qui termine 5e chez les pros et qui prend également un slot pour Lahti en Finlande. Les championnats du monde qui auront lieu en août.
Bah, Yann Frodeno qui regagne quand même. Ça vaut la peine d'être souligné un peu en gras, parce que ça faisait quand même un moment qu'il...
On peut le souligner, mais en même temps, le plateau alors était pas forcément exceptionnel. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve que c'est la présence de Schoenbourg qui est là et qui termine qu'à 3 minutes, en fait, de même pas à 2 minutes et quelques de Yann Frodeno. Sur un parcours qui est pas forcément évident, donc c'est pas si mal que ça.
Sachant qu'il s'est fait remonter au milieu de la course à pied, en fait, hein. Il s'était fait dépasser à peu près au kilomètre 10, donc il a mené la course pendant un moment.
Pour un athlète justement qu'on a plus l'habitude de voir exploser sur les WTCS, parce qu'il a souvent un départ à pied qui est tonitruant et derrière on le voit exploser dans les deuxièmes kilomètres. Mais là, il a réussi à tenir quand même la dragée haute à Frodeno et franchement, chapeau.
Alors, on enchaîne toujours sur Ironman avec le 70.3 des Sables d'Olonne.
Ouais, alors là, on était un petit peu sur le championnat de France de 70.3, beaucoup de Français engagés. On était surtout sur le half le plus cher de France avec quasiment un billet de 550€ à lâcher. Alors, c'est bien, ça fait des sourires, etc. 550 balles, les gars, pour faire un half. Bon, bah, à ce prix-là, vous aviez le droit à une belle médaille du monde, parce que l'organisation était quand même sympa. D'après ce que j'ai entendu, pas trop de drafting, mais pas trop d'arbitres non plus. Mais apparemment, ça draftait pas si fort que ça, des échos que j'ai pu avoir. Voilà, donc la victoire pour Léon Chevalier, qui revient au plus haut niveau. Donc, on l'avait laissé à PTO Ibiza, un petit peu déçu. Bah, le voilà qui gagne, devant Arnaud Guillou et devant Pierre Lecor. Chez les femmes, c'est Charlène Clavel qui s'impose, devant Émilie Morier, qui aura mené longtemps la course grâce à un très bon vélo, et l'Allemande Lisa Gers pour la troisième place.
Et d'ailleurs, sur les Sables d'Olonne, les points attribués par le PTO étaient plus élevés que sur le 70.3 Andorre. Donc du coup, il semble quand même qu'il y avait quand même plus de niveau, enfin en tout cas, il y a plus de densité du côté de la France.
On peut noter également que c'est la première victoire en pro sur le circuit Ironman, en tout cas, même sur le circuit professionnel, il me semble, pour Charlène Clavel, qu'on avait vu sur Xterra il y a quelques semaines, et donc du coup, elle enchaîne avec une victoire sur un 70.3. Nous, on enchaîne avec les France universitaires de triathlon qui ont eu lieu à Montauban. Ça, c'est pour toi, Julien?
Ouais, enfin, moi, j'ai pas été à l'université, mais il paraît qu'il y avait les France universitaires.
Ça, c'est vrai. Ouais. Hein.
Donc, les France universitaires qui avaient lieu sur le triathlon de Montauban, pas mal d'épreuves XS, S, M. Il y avait aussi le Gorilla Man en même temps, la première d'un format L. Mais c'était le format S qui était support, et donc des France universitaires. Et donc, c'est Solène Tan qui remporte le titre, de l'université de Paul Sabatier à Toulouse, et Yanis Fleurton de l'UIDEAL IDRAC de Lyon qui remporte la course chez les garçons.
Yanis Fleurton de chez Fleurton, Fleurton qu'on connaît?
Eh ouais. Ouais, il a les bons gènes, et puis je crois qu'il a aussi le bon état d'esprit et la bonne connerie lyonnaise qu'on connaît bien. Enfin, ça, c'est plus dans ma génération, du coup, mais c'était incroyable à voir cette évolution, et le papa était très fier.
Bah, ce serait cool qu'on l'ait un jour, le papa, sur le podcast, parce qu'il a l'air d'avoir le bon état d'esprit pour être avec nous, non? Puisque tu décris.
Ouais, je pense que Cédric, il a des bonnes anecdotes. Alors évidemment, les plus jeunes ne se rappelleront pas de lui, mais Cédric, c'était vraiment un coureur atypique sur le circuit Coupe du Monde dans ses belles années, avec un profil coureur à pied ultra talentueux, et puis qui s'est souvent battu contre certains critères de fédération française. Et c'est vrai que Alex, qui est souvent là-dedans, on pourrait certainement relancer certains débats, mais c'était effectivement dans les années des Jeux Olympiques d'Athènes. Mais non, Cédric, un athlète, un personnage extraordinaire.
Et qui a basculé vers le trail, d'ailleurs.
Ouais, il a couru sur le trail, il s'est fait bien plaisir, et il a aussi performé, vu qu'il était en équipe de France de trail longue distance. Et les gènes.
Et sur Otilo aussi, il avait fait un run là récemment avec, il me semble que c'était avec Dada, non? Il avait pas fait la finale.
Exactement, ils ont fait Otilo tous les deux la finale. Ce sera peut-être une petite question qu'on pourra poser à notre invité de la semaine. Allez, on enchaîne avec la World Para Cup en Espagne à Corona.
Médaille pour les Français avec Colin Grabinski, Camille Sénéclose et Geoffrey Versy, donc en PTS3, PTS4, PTS2.
Du côté de Challenge, il y avait également beaucoup, beaucoup de courses. Moi, j'ai noté la seconde place de Justine Guérard au Challenge Vansbro qui était en Suède. Petite anecdote, elle a dû courir avec une trifonction qui lui a été prêtée et des affaires qui lui ont été prêtées parce que sa valise n'était pas arrivée. Donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas la trifonction de son club. Et on note également que Thomas Navarro n'a pas fini la course. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais c'est une semaine après l'Ironman de Nice, donc c'est vrai que c'était un pari qui était peut-être risqué. J'ai également suivi moi la Coupe d'Europe d'Olten. Il y avait un live vidéo, figurez-vous, sur une Coupe d'Europe, c'est assez rare. Donc du coup j'ai suivi ça. Je vais pas donner forcément tous les résultats, mais on peut noter la 4e place de Théo Texeiro, la 5e place de Nathan Graiel. C'est une course qui a été remportée chez les hommes par un néo-zélandais, Stoffenberg.
Hop, mon ami là, tu vas pas passer à côté quand même. Il y a la 3e place de Daniel Damian.
Et ouais, c'est un Canadien. C'est vrai qu'étoute en Canada, on a vraiment des athlètes qui sont super complets. Ça fait plaisir de le voir là. On a un très mauvais accent canadien. Il faut qu'on le travaille. Et vous savez qui c'est qui a fait 2e de la course? Bradley Course.
Pas mal.
Ah, bien joué, Bradley Course. Chez les femmes, c'est Liolienne Vermeulen, la Belge, qui enchaîne après son podium, sa victoire, il me semble, au European Games. Devant Rachel Klammer, on a eu droit à un très beau finish à pied, c'était super à suivre. Et devant Olivia Thornbury, la néo-zélandaise, 5e Anouk Sterkers du côté français, la toute récente sélectionnée au championnat d'Europe U23 de triathlon.
Aux European Games, c'était 100% victoire des Norvégiens.
Oui, elle a fait 2e, pardon, Julien Vermeulen.
Elle a fait 2e, ouais. Vu que d'ailleurs, on n'en avait pas parlé la semaine dernière parce que le podcast était déjà sorti, mais le relais mixte norvégien a dominé les autres relais en prenant la médaille d'or sur les European Games.
Les Français font 8 et du coup les Norvégiens c'est carton plein parce qu'ils gagnent la course des hommes avec Vetle Thorn, ils gagnent la course des femmes avec Solveig Lofset et ils gagnent également le relais. Donc voilà, la Norvège revient en force mais avec des athlètes qu'on pouvait peut-être connaître moins pour ceux qui sont spectateurs un peu plus de loin.
Et du coup c'est qui le vrai champion d'Europe? C'est la question. Parce qu'autant Ironman ne peuvent pas donner un titre de champion d'Europe et là il y a eu 2 championnats d'Europe.
Ça va venir justement, excellente transition. Excellente transition, mon cher Mike, vu que la sélection des championnats d'Europe sprint vient de sortir.
Oui, les championnats d'Europe sprint qui auront lieu à Balıkesir en Turquie, c'est du 4 au 6 août, c'est un format demi-finale finale sur super sprint. Chez les femmes ont été sélectionnées Candice Denisot de Poissy Triathlon, Anouk Sterkers, je le disais, qui est licenciée de Toulouse Triathlon Métropole. Il y a également 2 élites chez les femmes, Mathilde Gauthier et Audrey Merle, dont on a déjà parlé plusieurs fois, et chez les hommes, roulement de tambour, Briac Tense d'ici Triathlon, Yannis Seguin du Triathlon Club Liévin et Baptiste Passemar qui est licencié au Triathlon Val-de-Gré et qui s'entraîne dans mon groupe. Et ça, ça fait plaisir.
Et chez les élites, tu auras qui?
Alors, il faut savoir que la course élite et la course U23, c'est la même course en fait. Il y a juste le classement qui est différent. Ça, c'est une petite particularité. Et du coup, aucun homme élite a été sélectionné. Il y avait 4 dossards. 3 ont été pris pour le U23 et donc 0 pour les élites.
Ah bah nous, quand à Montréal, on voit ça, tu sais, ça nous dit, franchement, la France elle pourrait trouver l'occasion de faire monter des jeunes et toutes.
Je vais péter une coche là.
Des jeunes là, je vais péter une coche. Ils sont montés à 4e.
En tout cas, voilà, c'était tout pour les actus cette semaine. Une version raccourcie, on se demande pourquoi. Et on va passer maintenant à On refait la course.
Allez, on refait les courses avec les courses qui nous ont marqué ce week-end, le week-end dernier, avec d'abord le Grand Prix de triathlon de Metz, Grand Prix de D1. Et Julien, a priori, toi, tu nous as regardé ça.
Ouais, moi j'ai suivi, il y avait une diffusion vidéo.
C'était donc toi ?
Ouais, c'était moi qui regardais. Il y avait une diffusion vidéo comme au Grand Prix de Bordeaux. Moi je me suis régalé, écoute, j'ai trouvé ça bien fait, on voyait bien les athlètes, en plus c'était des conditions pas évidentes parce que le parcours était très technique à vélo sur des routes très étroites et mouillé à cause de la pluie, donc du coup c'était vraiment très sympa à regarder. Je me suis même demandé si le live Facebook c'était pas mieux que passer sur l'équipe. Donc je sais pas, selon vous, est-ce que l'équipe TV c'est forcément indispensable sur un Grand Prix?
Moi je trouve ça bien pour le développement du triathlon en général.
Ouais, alors c'est bien parce que oui, il y a un côté télévisuel, mais par contre d'un côté pratique quand même. Facebook sur les mobiles, ça va tout seul, alors que l'équipe, faut créer un compte, machin et tout. Pour suivre un peu en pointillé si tu fais autre chose ce jour-là, quand même Facebook c'est vraiment pas mal et je pense que c'est le turfu.
Voilà, Marc, si tu nous écoutes, c'était une petite dédicace. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, c'est que comme à Bordeaux également, il y avait aussi pas mal d'internationaux. On verra tout à l'heure avec les résultats, mais on a vu des Australiens, des Anglais, il y avait même un Japonais australien qui est ingénieur. Voilà, ça fait plaisir de voir ce niveau-là sur les compétitions. On était un peu moqueur après l'étape de Fréjus et on était aussi moqueur à Bordeaux. En fait, on est souvent moqueur, mais il faut aussi relever que quand il y a du niveau sur les courses, en tout cas, il y a des internationaux. Ça veut pas dire qu'il y a pas de niveau en France, mais quand il y a des internationaux, donc je dis merci les clubs, merci Liévin, Les Sables, Saint-Jean, Poissy, qui arrivent à avoir le budget pour ramener des athlètes étrangers. Merci le modèle associatif français.
C'est ce qui était surtout intéressant, c'était de suivre la nouvelle confrontation entre Hauser et pas Hausler. Petite dédicace encore à notre petit Alex, qui a couru plus vite qu'Alex Yi. Alors, est-ce que vraiment c'était une priorité pour Yi? Est-ce que vraiment il s'est donné à fond? Toi, Julien, t'as regardé la course. Qu'est-ce que t'as
En fait, très rapidement, pour résumer, il y a une échappée à la fin de la natation, donc qui part, ils sont quatre à tourner devant, Jamie Riddle, Matt Hauser, Léo Abdeslam et je crois que c'était Igor Dupuis qui était dans le groupe de devant et Matt Hauser donc pose avec une vingtaine de secondes sur le groupe d'avance et c'est vrai qu'il fait un meilleur temps que Alexis de 3 secondes. Après, est-ce que Yi a un petit peu relâché sur la fin de la course, sachant qu'il n'avait pas d'autres classements à jouer, il termine deuxième. Ça je sais pas, mais ouais, c'est intéressant. De toute façon, Matt Hauser, il est en pleine bourre, il vient de gagner la WTCS de Montréal, donc c'est pas trop étonnant qu'il soit à ce niveau de performance là. Autre chose que j'ai remarqué par contre, c'est les Russes qui sont les athlètes russes qui sont de retour à la compétition sur Grand Prix, puisqu'on a vu une victoire de Valentina Ryasova. Je suis allé un petit peu regarder sa fiche ITU. En fait, elle fait deuxième au championnat d'Europe en 2021 et deuxième d'une Coupe d'Europe qui était à Balykesir encore une fois. Et il y a également la troisième qui est russe, qui s'appelle Diana Isakova, et pareil, qui a fait troisième à Balykesir sur la Coupe d'Europe. Donc pas de classement en 2022 évidemment pour les raisons qu'on connaît, mais du coup je trouvais ça intéressant de voir à quel niveau en fait de compétition, de performance elle pouvait revenir en 2023.
Ouais, je trouve ça étonnant aussi, et ça s'est fait un petit peu en catimini, je trouve. Il n'y a pas eu de communication officielle de la part de la Fédé sur le retour des athlètes russes en France sur les Grands Prix.
Et, je sais pas si elles avaient une interdiction de courir, pas d'interdiction.
Je sais pas non plus. Il y avait une interdiction, je crois, au niveau World Triathlon, ce sera vérifié, mais qui a été levée en début d'année, il me semble. Et chaque cas devait être étudié. Mais là, on voit le retour donc des athlètes russes sur le sol français. Alors, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a eu des conditions de demander aux athlètes? C'est surtout surprenant. Et puis après, sans faire d'amalgame et sans vouloir stigmatiser ça, on a eu pas mal de cas de dopage aussi des athlètes russes récemment, sur les dernières années au niveau français. Et c'est souvent d'ailleurs les cas qui sont sortis de dopage au niveau des Grands Prix de D1, c'était des athlètes russes. Donc voilà, j'espère que il y a quand même une attention particulière qui est portée sur ce pays.
On va passer à ce qu'on n'a pas vu. Alors moi, j'ai deux petits fun facts à vous donner. C'est ce qu'on n'a pas vu, c'est Kenji Nenner qui a eu une pénalité. Alors attention, pour mouillage de lunettes sur le ponton. Je connais la règle en fait, pour vous expliquer rapidement. Il y a un petit saut au moment du line-up pour nettoyer les lunettes, et du coup une fois sur le ponton, on n'a pas le droit d'aller toucher l'eau pour se nettoyer les lunettes, par exemple pour se laver les mains ou pour faire quoi que ce soit. Et donc du coup il a pris une pénalité de 10 secondes pour ça, ce qui lui on peut le dire, hein, ce qui lui coûte le podium. Moi je m'imagine juste l'arbitre lui expliquer en anglais qu'il avait pris une pénalité pour ça devait être un moment assez marrant. Après, une deuxième chose que j'ai pas vue, c'est un petit clin d'œil, c'est Léo Abdeslam sur la course à pied. Je crois qu'il finit 39e. Il a eu un petit peu plus de mal sur la course à pied, mais j'étais très impressionné par lui parce que c'est un ex-nageur en eau libre, tout comme Igor Dupuis et comme beaucoup qu'on voit. En revanche, il a tenu tout le vélo dans la roue de Matt Hauser et Jamie Riddle, qui sont parmi les meilleurs triathlètes au monde. Et il s'est un peu écrasé sur la course à pied, mais très franchement, j'ai trouvé sa classe qu'il ait pu tenir aussi longtemps avec eux et qu'il ait pu s'exprimer comme ça. Bravo à lui.
Ouais, on a pu là on a beaucoup parlé de la course homme. Il y avait également donc les femmes qui étaient présentes. On a rapidement parlé, Julien, avec les deux Russes. On peut noter attention, là c'est ton moment, Mike. La deuxième place de Katia Schaar, donc la Suissesse du Val du Dauphiné Olympique, qui termine deuxième donc sur le podium. Bravo les Suisses.
C'est tip top. Ouais, très international la course chez les femmes aussi, hein. Il y a seulement deux Françaises dans le top 10, hein. C'est Christelle Congy qui finit 6e et Célia Merle qui finit 8e. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir se confronter aussi aux autres pays, même sur les Grands Prix français.
Ah, bravo à ce club qui a le budget pour faire
au niveau du classement général, c'est Poissy Triathlon qui tient toujours la tête, même s'ils finissent 2e sur l'étape. Les Sables Vendée Triathlon 2e, ici Triathlon 3e. Et pour l'instant, vu qu'on a passé la moitié de la saison sur Grand Prix, puisqu'il reste encore deux Grand Prix. C'est l'Iscalet Triathlon et Satin Vertin Triathlon Sport qui ferment la marche et donc qui sont relégables pour la division 2. Du côté homme, le classement par équipe, rapidement. Poissy Triathlon 2e, Saint-Jean-de-Mont-Vendée 1er, qui malgré leur 5e place sur l'étape tiennent toujours la tête du classement. Les Sables Vendée Triathlon sont 3e. Pour l'instant, les relégables sont La Rochelle Triathlon et Montpellier Triathlon.
Prochaine étape, direction la Bretagne et Quiberon, début septembre, c'est ça ?
Quiberon, début septembre, et la semaine d'après, Saint-Jean-de-Mont, la finale qui comptera un point, une fois et demi les points.
Voilà, et donc on rappelle le Quiberon qui aura lieu en même temps que les premières Super League, donc il manquera certainement quelques athlètes de renom. Il me semble que Kenji Nenner, d'ailleurs, est souvent sur les Super League, donc lui, on risque de pas le voir.
Super League Toulouse.
Ouais. Et Cassandre Beaugrand, etc., à mon avis, seront engagés sur les Super League. On va passer tout de suite au Xterra France. Alors moi, j'étais sur place à Xonrupt-Longemer. Donc, ce que j'ai vu, bah, c'est encore une fois une course super bien organisée. Franchement, bravo aux organisateurs. Je sais que je les flatte un petit peu pour ceux qui nous ont regardés sur la chaîne du triathlon. Mais voilà, belle organisation, le triathlon de Gérardmer avec un longue distance à 200 et quelques euros, c'est loin des 500, et là vous avez une super orga, un beau cadeau, un ravito final de ouf. Voilà.
D'ailleurs, le long, ils se sont barrés de la Fédé. Hein. Il est hors Fédé, il est hors tout. Et c'est une épreuve, parce que ça fait, je crois, 10 ans, ils ont dit à la Fédé, en fait, c'est plutôt combien vous devez nous payer pour qu'on reste avec la Fédé que l'inverse. Un petit peu comme Ironman avec Roth, pour faire un petit clin d'œil à ce
moment-là. Un petit peu comme l'Alpe d'Huez.
Ouais. Un petit peu comme l'Ironman aussi.
Comme Royan aussi.
En fait, comme tous les triathlons en longue distance en France.
Mais je crois que justement, alors ça fait l'objet, et bah non, mais il faut quand même en parler pendant, tiens, vu que tu en parles un petit peu. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un appel de la Fédération Française de Triathlon. Et oui, des fois, ça m'arrive d'avoir quelqu'un qui m'appelle, qui m'a dit que justement, c'était un sujet à traiter pour eux et de voir comment ils pouvaient faire revenir dans le giron fédéral des courses qui étaient parties et de voir comment
on pouvait. Mais Julien, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on a eu sur le JT du triathlon Cédric Gosse, on avait de suite mis les pieds dans le plat avec lui, et c'était déjà un axe de travail avec son équipe et Yves Cordier qui était là, nani nana. Bilan, on est 3 ans après, je crois, 2 ans au moins après cette interview, et c'est toujours un axe de travail, donc c'est bien, c'est un axe de travail.
Alors justement, en Suisse, je ne vais pas citer des noms pour ne pas me faire d'ennemis, mais on a exactement les mêmes problèmes. Et ce week-end, il y a le triathlon de Genève qui est organisé par une agence. Et ils sont aussi sortis de Suisse Triathlon pour éviter de leur laisser de l'argent. Et nous, c'est une discussion qu'on a avec le triathlon de Lausanne, parce qu'on est aussi un des plus gros événements de l'année en Suisse. Mais comme Lausanne est capitale olympique, on se doit de soutenir les fédérations. Mais c'est vrai que c'est une manne d'argent hyper facile pour les fédés en ponctionnant sur les inscriptions. Par contre, qu'est-ce qu'on a en retour, quoi? Ça, c'est toujours un peu la question. Et croyez-moi, c'est des débats qui sont assez animés quand on a la chance d'avoir la fédération suisse qui se présente dans nos bureaux.
Ouais, et puis sans parler il faut parler aussi des règlements aussi qui peuvent être différents du règlement fédéral. Donc là, t'appliques ce que tu veux, en gros.
Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur chaque inscription, la fédération prend une petite partie, notamment avec les passes compétition. Et donc, du coup, bah, pour financer notamment l'arbitrage et les droits d'organisation. Et voilà, bah, certaines organisations considèrent que cette part-là est trop importante, en tout cas que ça vaut pas le coup. Et donc, du coup, ils font le choix de quitter cet environnement fédéral et de faire leur chemin de leur côté.
Et il faut savoir que dans le budget de la Fédé, c'est énorme. Je vous invite à aller regarder sur le site de la Fédé. Il y a eu justement d'ailleurs le vote du budget il y a pas si longtemps que ça, et les inscriptions le passe journée, c'est vraiment énorme dans le budget de la Fédé. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Et donc on peut comprendre que la Fédé essaye de récupérer des courses comme Gérardmer, comme l'Alpe d'Huez. Alors, bref, le Xterra France, messieurs, donc qui avait lieu à Xonrupt, donc au format sur un format M, avec ils avaient mis les moyens avec un petit passage autour d'un arbre, ça enroulait tout un arbre, voilà, c'était super sympa à voir à vélo. Il y a beaucoup de rampes qui sont construites, etc. Un départ Mastart, donc à l'ancienne. Moi, j'aime beaucoup. Ce qu'on a vu, c'est la victoire d'Arthur Forissier qui confirme son excellente forme. La seconde place pour Maxime Chanet, donc Arthur Forissier du team Exatri et Maxime Chanet du team Nissa. On a vu Sandra Merhofer qui termine aussi deuxième de la course, première pardon, et deuxième c'est Alice Pastès qui prend la deuxième place. Alors, ce qui est surtout à noter, c'est que c'était au format poursuite, le Xterra. La veille, il y avait un format short track, donc un format rapide, les écarts à l'arrivée donnaient les écarts au départ du lendemain, ce qui est très étonnant.
Explique-moi ouais. Juste comment tu peux me dire c'est un départ mass start, et puis après c'est une poursuite. Je comprends pas.
C'est que pour les groupes d'âge, c'était un départ mass start, et pour les élites, en fait, ils ont fait un départ poursuite.
Et tu lui fais pas, Mike. Hein. T'as vu, tu peux pas l'embrouiller comme ça. Hein. Là, il s'est cru au Brésil sur l'Ironman. Il est en train de se dire, il est en train d'essayer de m'embrouiller. Bon, je te chauffe pas là-dessus, Mike. Sinon, il passe
un départ mass start pour les groupes d'âge et départ poursuite pour les élites. Et franchement, je suis pas fan du départ poursuite parce que, déjà, si tu gagnes sur le short track, alors c'est pas forcément les mêmes fibres, etc. Mais déjà, c'est que t'es quand même assez bon, et donc tu donnes une chance supplémentaire à ceux qui sont bons, donc c'est un peu dommage.
Et surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est au niveau du classement, comment ça se fait. En gros, les pros, on va dire que c'est le même règlement pour tout le monde. Les pros, ils partent en fonction de la course du short track. Par contre, pour les groupes d'âge qui partent en master, c'est-à-dire qu'il y a deux classements vraiment distincts, alors.
En fait, le short track est réservé aux élites.
Oui, non, mais le lendemain, quand il y a la course.
Ah oui, il y a deux.
Il y a les pros qui partent les uns après les autres, et après, il y a un master.
Et après, il y a le coup de pistolet,
Mais le mec, admettons, il a 4 minutes, non, c'est beaucoup, c'est un short track, mais aller 1 minute d'avance la veille, il part 1 minute avant tout le monde, du coup.
Ouais, mais il est en élite. Ouais, il sera dans un classement élite. Tu sais, c'est comme sur Ironman.
La vraie âme du triathlon, c'est que tout le monde prend le départ en même temps, et il y a un vainqueur. C'est quoi cette affaire?
Non, mais je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi, c'était un peu dommage.
Une pétition, Jérôme. Allez, moi, je vous donne des nouvelles du classement du coup World Cup Xterra, puisque je jette un œil là-dessus, vous le savez. Chez les femmes, donc, c'est Alizé Patiès qui a pris la tête devant Loan Duvoisin et Martha Mendito. Et chez les hommes, du coup, c'est toujours Jens Emil Slot-Nielsen, qui a toujours pas raccourci son nom et son prénom, mais qui est toujours en tête de la série devant Arthur Serrière et Arthur Forissi, qui, lui, est remonté à la 3e place. Allez, c'est là-dessus qu'on conclut on refait la course, et puis on va passer maintenant avec l'invité de la semaine. Est-ce qu'il est exceptionnel cette semaine, Julien?
Ouais, il est pas mal, mais comme il a été champion du monde sur un circuit privé, je pense que Mike, il va nous dire que c'est de la merde.
Le Timorès, c'est clair, c'est aussi un circuit privé.
Attends, on n'a pas dit qui c'était encore.
Alors, j'ai rien dit, tu couperas.
Effectivement, donc l'invité de la semaine, c'est Hugo Tormento, le champion du monde au Tilo, donc champion du monde de Swillrun. Le français qui faisait équipe avec Max Andersson, le suédois, et on l'accueille tout de suite.
Le dossier de la semaine.
On accueille tout de suite le champion du monde swimrun de Aotilo. Alors je sais, Mike, c'est un label privé, c'est pas World Triathlon qui gère ça, mais on peut quand même l'appeler champion du monde. Est-ce que d'ailleurs tu t'es fait un petit maillot avec le livre arc-en-ciel, Hugo, ou pour te la raconter dans les soirées ou pas?
Oh non, c'est pas trop mon style, et je pense pas que ce soit le style de la discipline non plus.
Alors qu'on accueille Hugo Tormento, le néo-calédonien qui a remporté le swimrun d'Otilo, le championnat du monde du label privé en Suède avec son compagnon d'aventure Max Andersson. Salut Hugo, comment ça va aujourd'hui?
Salut les gars, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça va plutôt pas mal. On est à New York là pour une semaine avec Max. Ça fait une petite semaine de kiff et de stage, et on finit par une course sur Portland, un peu plus au nord, sur la côte ouest.
Ouais, donc on précise comme tu viens de le dire, que vous êtes deux en swimrun. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'il y en a que ça existe, ce que c'est le swimrun?
Du coup, le swimrun, c'est une alliance entre natation et trail. En gros, l'image la plus simple, c'est de prendre un archipel, tu pars d'un point A pour aller au point B, et donc du coup, tu nages d'une île à l'autre et tu traverses l'île en courant et ainsi de suite. Sauf que t'es du coup à deux et avec tout ton matos du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de transition comme il peut y avoir en triathlon, ou du moins pas de transition avec du changement de matériel. Donc tu nages avec tes chaussures et tu cours avec ta combare, tes plaquettes, ton pull boy et tes lunettes. Est un partenaire.
Ouais, pour ceux qui se rendent pas compte, c'est pas en ligne droite, hein, parce que là, il a dit du point A à un point B, alors on s'imagine une ligne droite avec une petite
belle sortie. Il faut l'alphabet, je pense, il y a le temps de faire l'alphabet.
Hein. Faut passer par des rochers, si l'eau elle est glaciale, c'est mieux, s'il y a de la vague, c'est encore mieux, et puis s'il y a des piranhas et des requins, c'est top, tu vois, c'est un peu l'univers du swimrun, non?
C'est un bon sport aventure, pour affronter tous les éléments, l'environnement et découvrir un peu tout ce qui peut se passer en dehors. C'est sûr que c'est un peu différent du triathlon, c'est moins plat, c'est moins tout est moins un travail de de relance, de timing et de petites roues plates bien, bien agréables à faire.
Toi, du coup, t'es champion du monde swimrun à Otilo en 2023. Est-ce que tu peux nous donner un peu, est-ce que tu peux nous planter le décor de la course à Otilo qui est un petit peu particulière quand même?
En 2022.
Hein. En 2022. Ouais. Ouais, mais parce qu'il va déjà être gagné en 2023, je le sais. J'ai déjà vu la course.
Merci, Luce. J'espère que tu as bien vu. Du coup, l'année dernière, on fait champion du monde. Otilo, c'est quoi? C'est la course mère de tout le swimrun, en fait. C'est là où ils ont vraiment commencé et lancé le label et derrière développer le sport. C'est une course qui veut regrouper en tout 23 îles. Donc, il y a 23 natations pour rejoindre chacune des 23 îles, et en tout et pour tout, ça fait 70 km, il y en a 61 à pied et 10, c'est quasiment 71 km en tout, et c'est 61 à pied et 10 dans l'eau.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce titre mondial, entre le avant et après? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie de tous les jours, ou dans ta vie même d'athlète?
Ça a changé que maintenant, quand tu m'introduis, tu dis que je suis champion du monde, voilà. C'est tout. C'est tout ce que ça a changé, Walou. Si, j'ai pris une coche bleue sur Instagram. C'est super.
Et t'as pas eu une meilleure couverture médiatique, non? T'as pas eu plus de demandes d'interview?
Ah, un petit peu, ça a pris un petit peu, ouais, c'est sûr. Après, comment dire, dans les proportions de comment le sport est connu. Tu vois, par exemple, je pense que Sam Edlow, ça a beaucoup plus changé sa vie d'être second à Hawaii que moi d'être champion du monde d'Otilo.
Tiens, une petite question comme ça. Du coup, Otilo, c'est un peu votre Kona à vous. Si l'année prochaine, le championnat du monde Otilo, il est à Nice, tu le vis comment?
C'est une super transition. Je le vis comment? C'est sûr que ça change un mythe. Hein. Ça change un mythe. Mais je pense que pour le coup, c'est pas si mal parce que notre sport, nous, c'est un peu moins tout timé comme vous. C'est toujours les mêmes distances, toujours le même parcours, ou moins presque d'un événement sur l'autre. Nous, il y a un peu plus de côté race aventure, un peu dépassement de tous les éléments. Et je pense que d'avoir un parcours un peu nouveau que tu connais moins et où les Suédois sont moins en terre conquise, ça serait un peu mieux.
Et du coup, la création de cette compétition, c'est venu comment? C'est des gars qui étaient trop picolés, un peu comme à Hawaï, et puis qui se sont dit c'est un concours d'ego, ou c'était une course militaire? C'est quoi l'histoire du...
c'est clairement ça. En fait, c'est quatre gars. Alors, je sais plus si c'est au mariage ou à l'enterrement d'une garçon, mais bref, un truc de ce style. Et ils se disent, mais venez, on rallie l'île la plus au... Parce qu'ils l'ont fait dans l'autre sens, donc ils ont fait l'île la plus au sud à l'île la plus au nord de l'archipel de Stockholm, avec quelques points de passage. Et en gros, sur les points de passage, il y avait des bars. Et l'idée était de se dire que les derniers payaient tout pour les premiers, dont les nuits d'hôtel à l'hôtel de luxe du départ et l'hôtel de luxe de l'île d'arrivée, plus tous les petits restaurants et snacks sur la route.
J'en connais un paquet que ça aurait motivé, ça. Hein.
En tout cas, eux, ils étaient bien chauds, ils sont bien partis pour ça. Puis ils se sont dit aussi, c'est pour ça que ça se fait à deux. Ils se sont dit, on n'est quand même pas des grands sportifs, ça reste un peu dangereux et il peut y avoir quelques petits pépins techniques. Donc on va faire ça à deux en espérant qu'il y en ait toujours un qui soit capable de prendre l'autre en charge s'il y a besoin.
Ça gagne combien un champion du monde swimrun? C'est-à-dire que là, t'as gagné un titre, et à l'arrivée, c'est quoi le prize money? Est-ce que t'arrives à en vivre? Tu vois, deux questions en une.
Des questions en une. La première, c'est combien ça gagne? Le jour où je suis champion du monde, sur le podium, je crois qu'on prend 2000 euros. Donc, on prend 1000 euros chacun. Et ça, c'est sur le ticket. Donc, après, tu retires toutes les taxes et autres. Donc, il reste plutôt 800 euros chacun.
Ça te paye un petit café pour après la course, quoi, vu qu'en Suède...
Donc, ça paye un petit café, ouais. Ça paye un petit café. Et en plus de ça, bon, on a la chance d'être supporté par les marques. Mais quand t'as pas les marques, en fait, ça paye juste le billet d'avion pour être venu à Stockholm et payer la nuit d'hôtel la veille. Donc, ça paye pas grand-chose. Et après, à côté de ça, en fait, bon, bah, du coup, je suis suivi par des marques, surtout Arc. J'ai la chance aussi d'être calédonien, donc je suis soutenu par le gouvernement calédonien. Mais en gros, cumulé de tout ça, à la fin de l'année, je kiffe ma saison, je sors pas de sous. Si tu cumules prize money et un peu tout ça, je pense que j'en sors, je sais pas, moi, 4000 euros l'année.
Et donc là, je vais te poser la question que tout le monde se pose. Mais du coup, attends, pourquoi, si tu gagnes rien, pourquoi tu t'infliges tout ça, les 60 bornes en course à pied, les 11 km en natation? Pourquoi tu fais ça, du coup?
Parce qu'on ne court pas tous après l'argent. On cause partout sauf l'argent.
T'as entendu Mike?
Après, ça peut être aussi vu différemment. Hein, ça peut être une question d'ego et d'ego mal placé, toujours voir se dépasser. Mais non, pour le coup, c'est pas.
Non, ma question c'est plutôt quel plaisir tu trouves. C'est quoi le plaisir de faire du swimrun?
Est-ce que tu vas demander à des sadomaso quel plaisir ils trouvent dans leur pratique?
Oui, je le demande souvent. Ouais. Ouais, je veux savoir.
Bah, ça pour le coup, je pense que c'est la même réponse que les triathlètes, parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent, mais il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, sur le gros du paquet quand gagnent de l'argent. Donc c'est le plaisir de se dépasser, c'est l'amour de la borne, c'est l'amour de l'effort et de
Moi, j'ai une question. Tu me dis que tu viens de Nouvelle-Calédonie. L'eau, elle est plutôt chaude. Quand tu te retrouves dans les pays nordiques, voilà, je pense qu'il y a un petit choc thermique. Donc, tu te prépares comment par rapport à cette gestion dans l'eau froide? Et puis, la deuxième question, c'est au niveau d'une course aussi longue, l'alimentation. Parce qu'on sait que en natation, ben, t'es à plat en semi-apesanteur. Donc, au niveau de l'estomac, c'est pas évident de gérer l'alimentation. Plus, ben, les parties trail, c'est pas comme sur un vélo en Ironman où tu peux manger un peu plus confortable ou boire ou t'alimenter plus confortablement. Donc, c'est un peu comment, ces deux aspects de la performance, le froid et l'alimentation?
Alors le froid, déjà il y a le matériel, hein. Aujourd'hui il y a des combis qui sont de plus en plus efficaces par rapport à ça, puis tu peux rajouter des couches et jouer sur tous ces petits éléments. Ça, c'est un premier point. Après, le deuxième point, c'est pas donné à tout le monde, mais quand t'as été nageur avant, t'as passé quelques heures dans ta vie dans l'eau, 5 heures par jour pendant quelques années, au final tu t'acclimates aussi au fait d'être dans l'eau, parce que rien, d'être dans l'eau, même si elle est chaude, tu t'y perds du jus. Je pense que Julien en connaît quelque chose, et du coup après ça aussi c'est par rapport à ça, c'est un lien avec la deuxième partie de ta question, c'est que tu t'anticipes tout ça aussi d'un point de vue énergétique, parce que non seulement t'as l'effort, mais t'as aussi le fait que rien que dans l'eau tu perds du jus, qu'elle soit froide ou pas froide, donc tu t'ingurgites plus de carbs juste avant ça, et ça pour le coup franchement je pense pas qu'il y ait de recette magique. On le voit même, je pense, en triathlon, il y en a qui préfèrent les gels, il y en a qui préfèrent les barres, il y en a qui préfèrent différents sujets. Moi pour le coup je prends une soft flasque et je surcharge en poudre Morten. En gros je mets après à peu près 320 plus 160 dans une soft flasque de 250 ml, donc il reste pas beaucoup de place pour de l'eau, et en fait ça me permet de prendre juste quelques petites gorgées de temps à autre quand j'en ai envie, parce que un gel anti-mortem c'est trop, je mange pas tout ça, et il faut quand même que j'ai un peu de jus de temps en temps, donc je peux pas rester qu'à l'eau.
Ouais, là c'est l'entraîneur qui va parler. Du coup c'est une course qui se fait à deux, tu l'as dit, aujourd'hui t'as un partenaire qui est suédois.
Ouais.
Comment on s'entraîne à deux quand on est pas forcément au même endroit? Est-ce que c'est important de s'entraîner à deux?
Ouais, c'est important de faire au moins quelques passages à deux. Pourquoi? Parce que comme au triathlon, un des le sport en plus, c'est la transition. C'est là où tout peut se changer. Donc tous les écarts peuvent se faire. C'est là où tu peux aussi facilement lâcher le paquet ou te faire lâcher par le paquet, donc il faut bosser là-dessus, et ça forcément c'est quand t'es ensemble que tu peux le faire, et du coup forcément il faut pouvoir s'entraîner un peu à deux pour tout ce genre de choses, puis aussi parce que c'est des sports d'endurance, hein. C'est les coupes du monde c'est 5 heures, la championnat du monde c'est 7 heures, tu passes par des hauts des bas, donc faut aussi bien se connaître là-dessus, et c'est presque un peu comme un couple, hein. Il faut qu'entre l'autre, sans même qu'il parle, tu sais s'il est bien ou pas bien, s'il faut le soutenir ou si tu peux attaquer, donc c'est important de pouvoir s'entraîner à deux. Après le fait d'être loin, comment on part ça, c'est que on est tous les deux d'accord au niveau de l'année sur quels sont les pics de forme, et surtout quelle est l'allure qu'on veut tenir sur les marathons ou sur Otilo.
Au niveau des contrôles antidopage, est-ce que il y en a dans le swimrun ou pas du tout? C'est vrai que c'est un sujet on n'en entend pas du tout parler, si tu veux, et on voit pas trop de communication là-dessus.
Non, c'est un truc qui manque un peu au sport. Pour le coup, la première fois qu'on s'est fait contrôler, c'est l'année dernière quand on était champion du monde. Et les trois premiers se sont fait contrôler. Il y a eu un changement de comment ça s'appelle, de directeur de course entre l'année dernière et cette année sur le label. Pour l'instant, sur la première, on nous a pas fait faire pipi dans une flasque. J'espère que ça viendra sur les autres, parce que comme il y a de plus en plus de médias qui s'y intéressent et un petit peu d'argent qui est en train d'y venir, au loin en tout cas de ce qu'on nous raconte, donc il y a un moment donné où ça va intéresser un peu plus, et si ça intéresse un peu plus, c'est bien de contrôler dès la base que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit fait.
Tu me diras si je me trompe, mais j'avais l'impression que le swimrun était vachement en croissance il y a 5-6 ans. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite... que ça avait un petit peu stoppé cette progression. Qu'est-ce que toi t'en penses? Et est-ce que tu... qu'est-ce qui manque en fait pour au swimrun pour continuer son développement?
Alors, le swimrun a énormément grandi il n'y a pas si longtemps. Pourquoi? Parce qu'on pense tout de suite à Otilo. Et c'est Otilo qui a fait péter ça et qui a vraiment grossi et pris de plus en plus les devants de la scène. Sauf qu'entre-temps, il y a eu 2020 et le Covid. Otilo étant une toute petite société... c'est pas Ironman, donc ils ont pris un gros coup. Et en plus, jusqu'à aujourd'hui, leur modèle n'est pas celui d'Ironman, c'est-à-dire qu'ils vont pas chercher des gars qui veulent payer le label et organiser la course. C'est eux qui organisent tout de A à Z, donc il faut certains fonds. Et donc ça leur a mis un gros coup de stop, parce qu'en plus 2020 ils étaient partis sur une grosse expansion aux US et tout ça, donc ils avaient avancé tout un tas d'argent sur tout un tas de courses qui n'ont pas eu lieu et les US n'ont pas rendu l'argent, donc ça leur a mis un gros stop dans la lancée. Du coup ils ont dû faire des choix drastiques, couper surtout sur la partie forcément média et marketing, parce que c'était le truc le plus simple qu'ils pouvaient couper. Le reste ils pouvaient pas couper pour garder les courses en vie, donc forcément ça a un peu stoppé la progression du gros label. Par contre, sur tout ce qui est des autres courses et surtout sur la France, ça a complètement explosé, parce que en plus de ça, il y a eu le fait que la Fédétri ait récupéré le sport, que tous les petits clubs, comme ils doivent tous organiser une course, ils sont tous mis aussi à rajouter à leur triathlon un petit swimrun. Donc ça a donné une certaine visibilité au sport, et donc il y a de plus en plus de courses, en tout cas en France, et ça devient de plus en plus connu en France. Après, sur le label international, c'est sûr que ça a mis un gros coup de stop. Le fait d'avoir changé de directeur de course, ça va faire du bien, parce que les mecs ont énormément d'idées, et c'est des gars qui sont neufs, qui sont frais, donc forcément ils ont d'autres idées que ce qui a pu se passer. Ils ont moins de blocages et ils ont moins peur, donc pour l'instant ils y vont. Ils veulent racheter un circuit qui se passe aux US l'année prochaine, ils vont racheter des courses en Australie, ils veulent en organiser un peu plus dans tous les hémisphères sud, développer aussi la partie Europe. Donc ça va bien relancer la chose, puis ils ont d'autres idées. Ils veulent un peu s'inspirer de tout ce qui s'est passé en triathlon, hein, tout ce qui s'est passé avec la Super League et tout ça, les trucs où tu prends les top athlètes et tu fais des petites courses un peu plus télévisuelles et un peu plus joueuses. Ça va être aussi un bras de levier pour refaire partir le sport d'un point de vue international.
Donc si vous avez des actions à mettre, hein, vous avez bien compris, il faut les mettre sur Otilo, il faut les acheter sur Otilo. C'est vraiment le moment. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que du coup, avec le changement de directeur de course, t'as toujours le droit au câlin du directeur de course à l'arrivée?
Bah, écoute, j'en ai eu un sur les deux à l'arrivée. Mais tu me disais, même avec les anciens, t'avais surtout Michael, mais t'avais pas forcément Matt, parce que Matt c'était plus sur la fin de course à faire la voiture balai. Là, t'en as un aussi qui était là à l'arrivée, qui nous a fait le hug. Alors après, nous, il nous l'a fait parce qu'on était les premiers. Je sais, j'ai en tête qu'il l'a fait à tous les premiers. Je crois pas qu'il l'ait fait à tous les concurrents comme Michael pouvait le faire, en tout cas.
Ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas le swimrun, c'est vrai que moi j'en ai fait quelques-uns, c'est un état d'esprit qui est quand même très différent, je trouve, de ce qu'on peut trouver en triathlon. C'est beaucoup plus convivial, confidentiel, tu l'as dit, mais il y a un petit côté familial qui est très sympa. Et toi, je sais pas si t'as fait du triathlon, Hugo, en tout cas beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur cette ambiance-là du swimrun? Essaye de nous convaincre de faire du swimrun. Pas moi c'est bon, c'est fait. Julien, il veut en faire un avec Mike, c'est sûr. Il y a le binôme, il est prêt déjà. Maintenant, c'est pour ceux qui nous écoutent.
Je t'ai dit, on va en faire un ensemble, Julien. Tu vas me traîner en natation.
Non, tu parlais de Mike.
Allez, un des premiers arguments, le plus gros et le plus simple, c'est tous ceux qui ont des femmes et que le vélo, ça prend un peu trop de temps le dimanche. Faites sauter le vélo et venez de faire que de natation et de la course à pied, déjà ça sera une partie gagnée. Ça vous évitera des problèmes. Donc ça, c'est un des arguments les plus simples. Et après, comparé à pour repartir un peu plus sérieusement, c'est une atmosphère qui est complètement différente, qui est beaucoup plus amicale, beaucoup plus dans le partage. C'est-à-dire que il y a pas de guéguerre, il y a pas marche ou crève, il y a pas le petit start où tu te mets des grosses patates sur les 150 premiers mètres tant t'as pas fait péter le paquet dans la natation. Ça, il y a pas en swimrun.
T'auras plus besoin de faire péter le paquet, Julien, t'as entendu?
Il faut que t'arrêtes avec mon nom, hein. Mais si tu veux, on fait un swimrun ensemble, hein, si vraiment t'as envie. Tu vas voir ce que c'est que de nager avec un boulet. Hein. Alors, tu parlais un petit peu de convivialité, etc., Hugo.
Moi, j'ai entendu parler de quelques distensions justement au sein du swimrun français. Tout ça, c'est réglé.
Alors ça, c'est un sujet un peu touchy, mais bon, on va s'y lancer quand même.
C'est très chaud, on n'est pas là pour.
C'est très chaud et c'est le but du show. Clairement, en toute transparence, ils ont lancé il y a des gars qui ont voulu prendre ça au sein de la FED et qui ont créé une vraie cellule qui, assez rapidement, ont réussi quand même à dégager au moins le regard des entités, des instances fédérales pour que ça crée un vrai mouvement et créer une petite mini communauté, avoir un peu des fonds pour aider et tout ça. Le fait est que forcément, c'est rattaché à la Fédétrie. Donc la Fédétrie demande à ce que ça soit uniquement des athlètes qui font partie de la Fédétrie et qui sont des Français. Donc forcément, de par ce premier critère-là, moi, je sortais de la sélection parce que mon partenaire n'est pas français. Ou du moins, je sortais pas forcément parce qu'ils m'ont gardé bien évidemment dans la sélection. Mais je suis pas sur le même statut parce que je peux pas représenter uniquement la Fédétrie. Mais c'est le début de l'histoire et ils mettent pas mal d'énergie par rapport à ça. Ils ont des idées. Après, ils ont aussi des bâtons dans les roues parce que c'est pas toujours simple forcément avec des grandes instances de faire sa place et de pousser quelque chose. Il me semble pas que ça soit si rose côté cross-tri non plus, ou même aquathlon. T'étais tout content de dire qu'il y avait l'aquathlon tout à l'heure. Je crois pas que ça se développe si facilement en France non plus. Donc c'est pas simple. Et comme tout, il faut se bagarrer. Les gars, franchement, ils y mettent de l'envie, ils font vivre le chose. Alors après, on fait des sélections, ça a plu, ça a pas plu. Ça, je suis pas là pour prendre position par rapport à ça. En tout cas, ils ont moulé maillot, comme on dit, ils sont sortis les doigts, ils ont créé quelque chose. Et ça, chapeau pour le faire et pour se bagarrer, pour faire ça auprès des instances, parce que moi, je peux le faire à d'autres niveaux pour d'autres sujets, et c'est pas un cadeau. Donc, ils ont envie de le faire, c'est des passionnés, et merci à eux pour ce qu'ils font.
Tu nous parlais un petit peu des formats là, qui vont arriver au niveau de l'Otilo. Je crois savoir que tu seras engagé sur la IOTA XP d'ici peu, donc à Vichy, où les deux Julien, Julien Pousson et moi-même seront aussi. Cool. Comment tu te places par rapport à ça, par rapport aux gens qui vont être là? On a vu pas mal de champions. Et est-ce que tu penses que c'est un avantage pour toi d'être swimrunner sur ce genre de course?
Dur à dire, parce que je pense qu'il y a des avantages dans tous les profils. Forcément, avec le côté assez long de la discipline, il y a 5 km à nager en tout et 40 à pied, donc c'est un peu plus long qu'un S. Donc forcément ça va être à mon avantage. Après t'as les gars ils sur route ils courent tous à 20 à l'heure, moi je cours pas à 20 à l'heure, donc en trail je sais courir peut-être plus vite qu'eux, mais dès qu'il faut aligner sur du bitume, c'est pas pareil, donc non, ça va être un sacré spectacle
possible. Moi j'ai quelques petites questions à te poser. J'ai envie de lancer une nouvelle rubrique qui s'appelle l'interview vérité. Il faut que tu répondes cash direct dès que je te pose la question. T'as 3 secondes pour répondre, c'est Julien qui vérifie le timing, et pas de langue de bois du coup, hein. Interview vérité, hein. C'est bon, t'es prêt?
Non, mais bon.
T'as pas le choix, de toute façon. Allez, c'est parti. Est-ce que t'as écouté l'épisode 0 du Tricho? Celui où il y a que Julien et Alex?
Non.
Non? Yes. Natation ou course à pied?
Natation.
Est-ce que, comme tout le monde, t'as peur de nager en pleine mer?
Non.
T'es pas comme tout le monde, alors. Est-ce que pendant une épreuve, tu t'es déjà embrouillé avec ton binôme? Du fait de jusqu'à vouloir te détacher et lui dire, allez, vas-y, casse-toi.
Oui, et c'était mon frère.
La combi manche longue pour une course au tilo, c'est pas un petit peu trop? Genre, tu serais pas un petit peu frileux?
En fait, j'ai pas une combi manche longue, j'ai des manchons en dessous. Donc, du coup, je l'enlève ou je la remets. J'ai juste les manchons qui restent, ce qui fait que tu gagnes du temps dans l'eau. Mais je peux quand même enlever le top. Donc, je reste assez aéré.
Suède ou France?
France.
Plaquette ou pool boy?
Plaque.
Tu préfères écouter Mike ou tu préfères écouter Alex sur le Tricho?
Sans choix.
Ah ben non, t'es obligé. Tu peux pas faire
neutre,
tu dois nous aider.
Il y en a un qui est pas là, il y en a un qui est là, profite-en.
On va dire Mike du coup. Il a qu'à être là, Alex.
Allez, la dernière, tu préfères être interviewé au Tricho ou sur Nouvelle-Calédo TV?
Nouvelle-Calédo TV, désolé les gars, faut que je reste un peu
plus. Oh l'enfoiré, oh là.
Ah, t'es viré, allez.
Ouais, bon, bah c'est. Ben merci Hugo, c'était très sympa de t'avoir jusqu'à présent.
Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas c'était ma dernière question.
Merci, non, c'est cool.
Non, ben,
allez, faut.
Merci beaucoup Hugo, on te souhaite beaucoup de réussite sur la course à venir aux États-Unis. On se retrouve nous sur la IOTA XP, donc à Vichy, dans 2 semaines, Et puis bah à bientôt, profite un peu des US.
Merci les gars, à très vite. Puis plaisir de te voir à la Utah alors.
Bonne course ce week-end.
Salut Hugo.
Ciao, ciao.
Allez, merci Hugo et on passe de suite au on s'en fout, on s'en fout pas.
Non mais on s'en fout.
Moi perso je m'en fous.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout, on s'en fout pas. Le principe il est simple, vous me dites si vous en foutez ou pas. Alors, Roth complet en 40 secondes. Le challenge Roth a lancé ses inscriptions lundi dernier et au bout de 40 secondes, c'était complet. On s'en fout pas.
Roth complet, non, je m'en fous pas.
Bah, moi, je m'en fous pas non plus et j'aimerais vraiment être à la place de l'organisateur parce que vous imaginez la cash machine qui rentre en 40 secondes et après, t'as une année pour dépenser ton fric.
Le rêve. Moi, je m'en fous pas non plus pour exactement les mêmes raisons, mais moi, j'aimerais bien voir les, tu sais, les billets descendre là d'un coup, là, à chaque fois qu'il y a une inscription. Ce serait tellement stylé. Ouais,
moi, je m'en fous pas non plus pour exactement les mêmes raisons.
Putain, vous êtes intéressé vraiment que par l'argent, c'est fou.
Et deux Russes sur le podium du Grand Prix de D1. Donc, c'est le retour au premier plan des athlètes russes. On s'en fout pas, Jérémy ?
Ouais, je m'en fous.
Je m'en fous aussi.
Je m'en fous.
On va être vachement original aujourd'hui. Ouais, je m'en fous.
Non, mais du coup, ça veut dire que les clubs de D1, s'ils veulent ne plus prendre d'athlètes russes, ils peuvent le faire, hein, puisque tout le monde s'en fout.
Alistair Brownlee, qui n'est plus sur la start list de l'Ironman Switzerland, l'Ironman de Thunes. Alors, on s'en fout pas, Jérémy.
Je m'en fous pas. Parce que putain, ça fait autant de chances de pas le voir à Nice, et j'aurais bien aimé le voir à Nice.
Bah, moi, je m'en fous pas non plus, dans le sens où ouais, c'est un athlète qu'on aime voir courir. Après, bon, c'est pas vraiment une surprise vu la saison qu'il enchaîne. Mais...
Attends, mais on l'a pas déjà fait cette actu là, la semaine dernière? Ou la semaine d'avant? Ou la semaine d'encore avant? Non, moi je m'en fous pas non plus. Franchement, ça me fait un peu de peine pour lui. Et l'Ironman Switzerland, si je dis pas de bêtises, c'était une des dernières courses pour se qualifier pour Nice. Et du coup, ça veut dire qu'il sera pas à Nice. Sauf wildcard ou je sais pas.
Truc ouais, moi je m'en fous. Voilà. Et les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ouais, s'il participe pas, il participe pas, c'est tout. Allez, petit big up à Alex. Là, il va faire quoi? Mais comment tu peux dire ça d'un athlète?
C'est la légende. Tu te fous de lui? Non, mais franchement, faut le respecter. Ah non, mais je l'entends déjà d'ici. Et tout.
Allez, on passe à la suite. Les Jeux des Caraïbes, donc qui auront lieu ce week-end, un événement multisport qui regroupe 7 disciplines, ouvert aux nations des Caraïbes. Alors, on s'en fout pas.
Alors moi je m'en fous pas parce que ça veut dire que il y a pas mal d'athlètes du Mexique de tout le golf comme ça et puis ça permet à tous ces athlètes de reniveler un petit peu par le haut l'ensemble du continent nord-américain. Alors ce qui manquerait serait 2-3 Canadiens au départ.
Alex, t'es trop long Alex.
J'essaye d'être aussi long que c'est dur.
Alors moi je fais comme Alex, je m'en fous.
Moi aussi je m'en fous, j'avoue.
Ouais, moi aussi je m'en fous. Allez, merci messieurs, on passe au débat en bois.
Le débat en bois.
Le débat en bois de la semaine. Alors messieurs, y a-t-il trop de courses en France? On voit des organisateurs qui, au fur et à mesure de l'année, ne remplissent pas leurs courses, sont un peu désespérés, des inscriptions de dernière minute, etc. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de courses en France. Est-ce qu'il y en a trop ou pas? Selon vous, c'est parti. Jérémy, à toi la parole.
Je sais pas s'il y en a trop, mais en tout cas, il y a aucune cohérence et cohésion entre les organisateurs. J'ai l'impression qu'il y en a, ils rajoutent des dates alors que c'est déjà bien rempli. Ils essayent pas de se dire, tiens, on va essayer de bien placer le calendrier. Après, bah, c'est délicat. Hein. Il faut aussi que les conditions météorologiques permettent de faire du triathlon, mais il y a de plus en plus d'épreuves en tout cas et c'est problématique.
Attends, on parle de courses, de triathlon, de duathlon, d'aquathlon, toutes les courses. Précise-nous un peu Julien, parce que moi aller me braquer un triathlon en janvier ou en décembre, à part si c'est le triathlon de la Saint-Sylvestre à Antibes, là je veux bien. Mais sinon, c'est sûr que c'est facile de dire mettez vos épreuves en janvier les gars, vous verrez, vous serez pas en concurrence avec personne.
Non, on parle de toutes les courses liées à la Fédération Française de Triathlon, donc duathlon, aquathlon, swimrun, triathlon. Mais même du duathlon, tu vois, et ça tu peux en faire en hiver aussi, et même du raid. Ouais.
Non, moi je trouve que ouais, je suis un peu partagé, mais puisqu'il faut trancher, je trouve qu'il y a trop de courses en France. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de courses au même moment. Après, d'un autre côté, il y a beaucoup de courses en France, mais quand tu proposes une course à 500 balles, ben elle est complète. Alors que bon, voilà, c'est cool, mais il y a rien non plus d'exceptionnel sur le 73 des Sables d'Olonne, j'ai rien contre eux, ou sur un autre 73. C'est pas non plus le truc incroyable où tu te dis, oh, je vais mettre 400 balles de plus parce que vraiment, c'est super bien organisé. Et d'un autre côté, il y a des courses un peu plus petites qui ont du mal à trouver preneur et qui, si ça se trouve, sont aussi bien. Donc, je suis pas sûr, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, Jérémy. Je pense que le problème, c'est pas les organisateurs, c'est plus la culture triathlon qu'on a.
Et à l'époque de Mike Egroz, alors c'est dire si c'était il y a longtemps, mais à l'époque de Mike Egroz, il y avait quand même ce genre de course un petit peu parallèle au circuit Ironman qui se sont montées. Donc il y a le Natureman, il y a le triathlon des Gorges de l'Ardèche, le triathlon de Cannes, le triathlon de Deauville qui sont nés par la fuite de Tristar 111. Et il y a eu quand même
feu Tristar.
Et ouais, le feu Tristar. Par contre, il y a eu, je pense, une évolution dans la mentalité qui fait que les gens maintenant, ils veulent absolument faire un Ironman, label ou rien d'autre. Et malheureusement, tu vois, tu as des épreuves genre Frenchman ou des trucs comme ça. Et tu vas là-bas, c'est le feu, il y a 2000 participants ou 4000 participants en tout sur la semaine, je crois. Quasiment 2000 sur le half. Et lui, il arrive à avoir un truc, mais je pense que tous les longs n'arrivent pas à le faire, alors qu'ils mériteraient d'avoir genre le L d'Embrun, ils ont 500 participants. Mais
ouais, moi je pense qu'il y a pas trop de courses. C'est effectivement un changement des habitudes en fait. Et comme tu le dis, Jérémy, c'est pas qu'il y a trop de courses, c'est que on a de plus en plus de triathlètes et qu'il y a un changement des habitudes de consommation des gens. Parce que maintenant on a affaire à des consommateurs et les clubs le disent aussi, tu vois, les créneaux piscines sont pleins. Bah en natation, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inscris dans le club de triathlon et tu vas pas aux entraînements. Et puis pour les courses, c'est des gens qui vont aller faire, tu vois, il y avait le triathlon par exemple Open Lake qui a vraiment bien marché là il y a quelques semaines, et avant c'était le triathlon du lac du Der et il y avait un petit peu moins de monde que ça, tu vois, et pourtant ça a augmenté. Ouais, voilà, Frenchman, Open Lake.
En fait, il te faut un nom anglais, ça fait plus classe. Non mais t'as raison, moi j'ai des potes qui ont fait leur premier triathlon. Ouais, je suis sûr ils vont pourrir parce qu'ils écoutent, mais ils ont fait leur premier triathlon de leur vie. Et franchement, devinez quel triathlon ils ont choisi. Alors, ils habitent à plusieurs coins en France. Hein. Devinez quel triathlon ils ont choisi.
Ironman 73 Nice.
Non, plus pourri encore, plus pourri. Plus risqué.
Triathlon de Genève.
Non, quand même pas. Plus pourri encore. Le triathlon de Lausanne ? Ouais, presque. Non, ils sont allés faire le triathlon de Paris. Et en vrai, franchement, tu fais un premier triathlon. Pour moi, c'est pas ça vraiment le triathlon. C'est pas un truc en ville, c'est un truc nature. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça.
Maintenant, tu veux dire que pareil, pour toi, ESO est pas capable d'organiser un triathlon? Je te rappelle que c'est eux qui sont en charge d'organiser le test event. Hein.
C'est aussi eux qui sont en charge de garder les vélos dans le parc. Enfin, c'est un autre sujet. Mais le triathlon était sûrement très bien organisé. Mais c'est juste que clairement, ça fait pas rêver un triathlon à Paris. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a d'autres triathlons.
Non, mais toi, t'es du sud. Un triathlon à Paris, ça fait rêver. Mais c'est juste que.
Ça voilà, fait rêver qui, franchement, un triathlon à Paris?
Alors que le triathlon de Toulon, le Mont-Faron, tout ça.
Voilà, ça, c'est des vrais triathlons. Mais eux, ils connaissent pas. C'est les nordistes, ils connaissent pas. Mais du coup, ça devrait être ça le truc. Est-ce qu'il y a trop de courses dans des villes comme Paris, comme des trucs pourris?
Il y en a pas. Quoi? Justement, il y en a pas. Non, il y a pas trop de courses dans les régions parisiennes. En région parisienne, par contre, il y en a beaucoup qui sont dans les calendriers au même moment. C'est ce que disait Jérémy tout à l'heure. Et on a du mal à s'y retrouver. Et il faut faire des choix. Et souvent, les gens, comme tu disais, ils veulent faire un Ironman parce qu'ils veulent payer un label. Et derrière, quand t'as payé 600 balles pour faire un Ironman, un 73, derrière, il te reste plus beaucoup de budget pour aller faire celui à 100 km de chez toi, même si c'est 100 balles, quoi. T'as déjà claqué tout ton budget. Et comme tu vas sur Ironman et que t'es sur Ironman, faut quand même se la raconter un peu. Donc, faut que tu t'achètes le vélo à 10 000 qui va avec. Faut que tu t'achètes la trifonction à 400 €. Et puis voilà.
Ah mais toi t'es dans les clichés quoi, sérieux. Et tu crois que si j'organise un triathlon et que je l'appelle Ironman,
en fait tu fais ton tatouage.
Tu crois que c'est bon?
Il y a le budget tatouage Ironman aussi qui a 2000 balles. Ah, donc ça faut faire gaffe.
Dans le cliché. Ils sont comment les Suisses?
Je pense qu'on est un petit peu sur le même genre de discussion. Après en Suisse, le marché il est moins grand géographiquement. La Suisse, il y a moins de population.
Ouais mais il y a plus d'argent.
Il y a plus d'argent, ouais. Après, ce week-end à Genève, c'est un carton complet. Ils sont 3800 participants, je crois, sur un événement qui reste un événement hors branding. Maintenant, je pense qu'il y a de la place pour tous les organisateurs. Après, je pense que chaque organisateur doit avoir un public cible. Et je pense qu'il y en a pour ceux qui veulent découvrir le triathlon dans le milieu champêtre. Et puis, il y en a pour ceux qui veulent Instagrammer leur médaille. Donc, je pense que...
Mais du coup, pourquoi il y a des triathlons qui sont pas complets alors dans ce cas-là?
Bah, ils sont parce que leurs médailles ne sont pas instagrammables.
Parce qu'ils sont pas instagrammables. Et puis après, ils touchent peut-être une quantité de la population de triathlètes un peu moins importante. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, le triathlète basique, c'est quelqu'un qui a un fort pouvoir d'achat, donc il peut se payer des courses qui coûtent cher. Et puis il va chercher ça. Quand tu vois les études de marché du gars qui fait du longue distance, c'est 35-50 ans, chef d'entreprise, et puis il s'achète une expérience, il s'achète pas forcément une performance, et puis ça c'est aujourd'hui ce qui se vend bien. Mais après, je pense qu'il faut aussi différencier les triathlons qui sont organisés par un comité d'organisation bénévole et puis qui sont organisés par une entreprise d'événementiel qui doit payer des salaires. Et là aussi, je pense que c'est pas la même prestation. Et après, libre à chacun de choisir sur quel style d'événement il veut aller. Et là, j'ai eu Eric et Mathis il y a pas longtemps au téléphone pour le Natureman. Ben, le Natureman, c'est typiquement une course qui a su se démarquer par un environnement qui est magnifique, mais aussi parce qu'ils ont réussi à mettre cette identité organisation locale, familiale, une bande de potes. Et puis finalement, Roth, c'est ça. Mais Roth, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dans le capitalisme? Parce que remplir une inscription comme ça en 40 secondes, on veut clairement faire du fric. Donc voilà, c'est ça. Mais aussi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de petits organisateurs qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Parce que je sais pas comment ça s'est passé au niveau des années Covid en France, mais en Suisse, il y a eu pas mal d'argent qui a été injecté par le gouvernement pour sauver tous ces événements-là pendant les deux années de crise. Et puis aujourd'hui, quand tu as un événement qui marche pas pendant deux ans, tu as quand même des frais. Donc les petits organisateurs, ils ont réussi à couvrir leurs frais ces deux dernières années grâce aux aides Covid. Mais là, ils sont à sec. Et c'est clair que quand t'es bénévole et puis que tu fais ça en plus de ton taf et puis de ta famille, puis que c'est toi qui dois sortir l'argent de ta poche et en plus prendre les risques d'organisateur, ça le fait plus. Donc typiquement, le triathlon de Vevey, qui est une organisation locale chez moi, qui avait, je crois, plus de 25 ans d'existence, c'était un de mes potes qui organisait, ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils avaient plus la foi, quoi.
Merci messieurs. Donc on aura l'occasion sûrement de rediscuter un petit peu de tout ça, du nombre de courses, des changements des habitudes des triathlètes, des dépenses de chacun, du panier moyen d'achat des triathlètes français ou suisses. Donc merci en tout cas. Si sur les réseaux vous voulez nous mettre des petites remarques sur ce sujet, n'hésitez pas. On bascule tout de suite au quiz du Trichot. C'est parti pour le quiz.
Attends, parce que Mike, il a gagné la première édition et moi j'ai gagné la deuxième. T'es au courant là, c'est le duel au sommet là.
J'arrive pour rupter le duel. Voilà.
Explique les règles.
On commence le quiz. La première règle, c'est simple. Vous allez me citer un nom chacun à tour de rôle. Et donc, on va commencer par Jérémy. Ensuite, ce sera Mike et en dernier Julien. Et à tour de rôle, vous citez un nom. Et quand vous pouvez plus en citer, vous êtes éliminé. Alors, tu vas voir. C'est parti. Vous devez me citer les 10 derniers, sur les 10 dernières années des vainqueurs du championnat du monde Ironman, que ce soit champion du monde Ironman. Et on commence donc par toi, mon cher Jérémy. Et donc, un par un, vous citez des noms. Et quand vous en avez plus, vous êtes éliminé.
Alors, Yann Frodeno, mais par contre, du coup, c'est un faux championnat du monde parce que Mike Egros a dit que c'était pas ETU. C'est bon, tu peux y aller.
Mike, c'est à toi. Donc, c'est bon pour Frodeno.
Chris McCormack.
Eh bien, c'est pas bon. Tu es déjà éliminé, Mike, sur les 10 dernières années, Mike.
Ah putain, j'ai trop vieilli. J'ai pas calculé, c'est ça le problème.
Tu es déjà éliminé, mon cher Mike.
C'est plus de 10 ans, Chris McCormack. Hein. T'as failli sortir Mark Allen. Tu t'es dit, c'était peut-être un peu juste pour 10 ans.
À toi, mon cher Julien. Alors, ça peut être homme ou femme, hein, allez-y. Hein.
Ok, Daniel Arif.
Daniel Arif, c'est bon.
Patrick Lange.
Patrick Lange, c'est bon.
Anne Haug,
c'est bon.
Frédéric Van Liard.
Oh, celui-là, t'aurais dû le garder parce que je pense qu'il était... Si, 2013.
Non, 2013, Liard, ouais, c'est bon. Ouais.
Gustav Iden,
c'est bon.
C'est Hawaï. Hein.
Oh non, ça peut être n'importe où. Championnat du monde Ironman, j'ai pas précisé le lieu.
Ah, bon, Blumenfeld, bon. Du coup.
Je peux pas sécher déjà là. Attends, tu couperas le moment où je réfléchis.
Il en reste 3.
Il en reste 3 chez les gars ou 3 en tout?
Il en reste 3 en tout.
Chelsea Sodaro.
Oh,
mais c'était cette année, c'est
il
facile.
Il en reste 2. Putain, il m'a pris le dernier nom que je pensais sortir.
Ouais, c'est facile de dire ça.
Chrissy Willington, ça va être 2012,
c'est
non?
C'est pas bon, mon cher Jérémy Morel. Tu es éliminé. Et donc, il restait Sébastien Kienle.
Ah ouais.
Et Miranda Caffrey.
Bon, ça fait un point pour moi déjà.
Ça fait un point pour toi, et effectivement, ouais.
Je t'ai pris sur ton terrain, là,
question
Mike, en plus. Hein.
Rapidité. En quelle année est créée la Fédération française de triathlon?
1989.
Oh, 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 oh.
Ah, bien joué.
Oh là, et alors là,
bien joué.
Alors là, il vous a mis un point, mais alors cette question.
Non, mais tu lui as filé la réponse avant, dis-nous la vérité.
Quand même, c'est pas mal.
Alors? C'est pas pareil, hein? Ça fait les marioles, mais quand Jérémy l'arrive, c'est plus pareil. Hein.
Allez, question rapidité aussi. Je vais vous lire un texte. Il s'agit d'une marque. Dès que vous l'avez trouvée, eh bien, vous pouvez dire question rapidité. C'est parti. L'histoire de la marque débarque en 1973 entre les crêtes rocheuses et les champs de lavande de la Drôme provençale.
Corima.
Oh, ah ouais, joli.
Oh les gars, oh, la culture quand même.
Oh, le mec, il est adorable. Dis la vérité, tu lui as pilé les réponses avant. Non mais il triche, il est sur son ordi, regardez.
Ah mais là on sent le mec qui a une agence de marketing quand même.
Corima qui vient d'ailleurs, si vous parlez de marketing, je sais pas si vous en avez parlé, ils ont sorti leur nouvelle tubeless là, ils ont ouvert la commercialisation. Donc ça c'est une bonne nouvelle, voilà, c'est tout.
Et on en a parlé la semaine dernière, Jérôme. Ça pour avoir les réponses en avance, il y a du monde.
Allez, on rebascule sur les noms et puis bah cette fois on va passer on va commencer par Julien Pousson. Donc vous allez me citer chez les femmes le nom des championnes olympiques.
Nicolas Spierig.
C'est bon.
Alors là, ça fait une Suissesse, donc j'en dis une deuxième, Brigitte McMahon, parce que nous, on a fait pas mal de médailles au niveau des Jeux.
Oh, mais t'aurais dû la garder, celle-là.
Non, ça compte pas, Brigitte McMahon.
Elle a pas été sortie de sa médaille olympique.
Oui, pour ceux qui ne savent pas, ouais, elle a été prise pour EPO.
Ouais, mais c'est parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle était maman.
Jérém, on t'écoute.
J'ai pas de nom. Là.
Jérém, il triche, il regarde sur son ordi.
Allez, premier tour, eh bien, nous sortons Jérémy Morel. À toi, Monsieur Pousson.
Je suis impardonnable.
Jorgensen.
Et oui, à Rio, putain.
Mais bien sûr.
Gag. Là, il reste Athènes et Pékin, du coup.
Bah, il reste Tokyo aussi.
Et Tokyo. Ah bah oui, Tokyo, mais on est vraiment des gags. Flora Duffy, non mais franchement. Eh, hey, tu l'enlèveras de cette question, c'est la honte pour nous.
Eh bien, donc, ça nous fait 2 points pour Jérémy Morel, donc qui remporte cette édition.
Quoi, c'est déjà fini? Non, mais attends, fais une question bonus qui compte pour 3 ou quoi? Je peux pas perdre contre Jérémy.
Il a été très, très bon. Bravo, Jérémy. Et on va donc basculer tout de suite à ce qu'on va regarder la semaine prochaine. On va commencer tout de suite par le triathlon des Gorges de l'Ardèche.
Oui, du coup, bah, c'est un peu un des triathlons, tu vois, dont on parlait tout à l'heure sur la question en bois. C'est un des triathlons qui a fait quand même rêver avec Hervé Faure au début. Il y avait tout un tas de pros qui venaient, etc. Et c'est le triathlon qui lance l'été en France. Donc Théo Debar, il revient après s'être crashé contre une bagnole juste après le challenge Fréjus. Julien, tu me confirmeras si je dis pas de bêtises, mais je crois que Mathis, il vient. Ah, c'est sur le CD, d'accord, ok. Et voilà, j'ai su qu'il faisait pas toutes les courses, mais je pensais qu'il faisait que le long.
Ouais, Mathis m'a envoyé, il fera le CD, du coup, il ferait pas le challenge parce qu'il faut noter qu'il y a un challenge SML. Donc, sur 2 jours, c'est ça, Jérém?
Ouais, c'est XS. SM et L, c'est assez cool d'ailleurs, c'est en nocturne, etc. Ils avaient réussi à mettre ça en place là, depuis 2019. Et bon, cette année, on regrette un peu la startlist un peu pétée parce que il n'y a pas de grosse tête d'affiche. Il y a eu Ron Stadler. Ah si, il y a Ron Stadler. Ils ont eu Bertrand Billard. Ils ont eu.
Est-ce qu'ils ont eu Jérémy Morel?
Ils ont eu Jérémy Morel.
Ah ouais, non,
ils
n'ont
pas eu Mike Egros. Ils n'ont pas eu Mike Egros. Et chez les filles, je crois qu'il y a eu Julien Pousson, même peut-être une année. Non, mais chez les filles, tu vois, il y a Camille Donat, Céline Bousserez, et puis c'est tout, quoi. Il y a pas le haut du gratin qui vient, alors que fut un temps, il y avait quand même un peu de niveau, donc c'est un petit peu dommage, c'est dommage. Parce que c'est une épreuve qui mérite d'être connue. Pour ceux qui veulent pas forcément de label.
Il n'y a pas besoin qu'il y ait du niveau pour qu'elle soit connue, l'épreuve.
Ah, débat en bois de la semaine prochaine, faut-il du niveau pour avoir une course connue?
Qu'est-ce que c'est du niveau? Bon,
ouais. Ouais, qu'est-ce que c'est que le niveau? Ouais. Définition du niveau. Allez, c'est parti.
Mais bon, il y aura quand même pas que le triathlon des Gorges de l'Ardèche. Tu regardes quoi, toi, Julien?
Eh bien non. Il y aura les championnats de France aussi d'aquathlon et le triathlon des ligues régionales avec à Ménard-la-Barotière qui se trouve.
Comment tu vas passer un week-end de merde, toi? À Ménard-la-Barotière, t'es sérieux?
À Ménard-la-Barotière en Vendée. Et moi, je suis content de voir ce championnat de France d'aquathlon quand même et les régions aussi les ligues. Je trouve que c'est toujours un moment sympa. Après, au niveau calendrier, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment, mais bon.
Voilà. Ouais, je pense que c'est situé comme ça parce que c'est aussi avant les vacances scolaires et il faut savoir que sur le championnat de France d'aquathlon, c'est le seul championnat de France où les Benjamins peuvent participer à un championnat de France, du coup. Et moi, c'est pour ça que je blaguais, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi parce que je connais un petit Benjamin qui a commencé par le champion de France et qui
Benjamin.
Et qui aujourd'hui, il s'appelle pas Benjamin, il s'appelle Dorian et qui aujourd'hui a fait deux fois les Jeux, mais il a commencé par le championnat de France d'aquathlon. En catégorie Benjamin, donc c'est plutôt cool, ça part des fois de là.
Alors il y aura également la WTPS de Montréal, donc World Triathlon Paraseries, petite dédicace à mon cher Alex, ce sera chez lui, et voilà, donc à suivre avec notamment Alexis Quincan en tête d'affiche chez les Français, mais pas mal de Français engagés tout au long de cette course. Donc c'est le retour des paraséries après les paracups, donc encore une fois l'occasion pour le paratriathlon français de briller, et moi je regarderai bien sûr les résultats.
Eh ben, tu vois, ça me fait tant plaisir parce que ça veut dire que là il y a des Français qui boutent pas l'épreuve de Montréal, et ça vraiment ça me fait chaud au cœur.
Ça c'est important, il faut signaler aussi que
c'était je suis pas sûr qu'il va regarder notre cher Alex parce
qu'il est en France, il est en France en ce moment, donc
ouais, voilà, parce qu'il est en France,
il n'est pas là quand il y a une WTPS à Montréal. Il faut juste signaler aussi que c'est la première épreuve qui permettra, en tout cas la première WTPS qui permettra de marquer des points sur le ranking olympique, et donc pour se qualifier aux Jeux paralympiques, pardon, sur le ranking paralympique, et donc pour se qualifier aux Jeux paralympiques pour ces athlètes-là. Donc ça commence à être important en vue des Jeux de Paris. Moi je vais regarder, je vais être du côté Hongrie. Je vais aller voir la World Cup de Tizsaovváros. Normalement, on dit comme ça, il paraît, mais Tizi, c'est mieux. Tu l'as déjà faite, celle-là, Mike ?
Chaque année, j'étais le seul Suisse qui voulait y aller, mais c'était pas forcément pour la performance à l'époque. Mais...
Ah, tu m'étonnes. C'est une épreuve qui est mondialement connue pour sa soirée. Alors, c'est une épreuve qui est en demi-finale, finale, mais il y a la soirée le soir de la demi-finale, il y a la soirée le soir de la finale. C'est assez extraordinaire, l'ambiance est géniale. C'est aussi connu pour sa petite Marocanard. Alors... petite anecdote, en fait c'est vraiment un bassin qui est très petit, un lac qui est très petit, et plus de la moitié du budget de l'organisation, il est alloué à refroidir l'eau en fait pour qu'elle soit nageable dans ce petit lac. Donc ça c'est assez marrant. Maxime Huber-Mosbrugger qui sera le seul représentant français pour cette compétition là, et si je peux vous conseiller déjà de la regarder si vous voulez sur Triathlon Live, sinon je peux vous conseiller de regarder un petit replay. Alors je vous conseille, il faut que je retrouve l'année, je crois que c'est 2016. La vidéo d'Aurélien Raphaël qui, tenez-vous bien, à la sortie de l'eau, à la transition 1, il y a un gros orage qui a éclaté pendant qu'il nageait. Il sort de l'eau, il va vers son vélo. Il avait un petit peu d'avance à la sortie de l'eau. Il dégonfle son pneu arrière au moment de la transition. Il part en vélo et au moment où il court dans le parc, il soulève sa roue avant, il dégonfle un petit peu sa roue avant pour enlever un peu de pression. Et malgré ça, il sort quand même dans le premier groupe. C'est assez extraordinaire qu'il ait réussi à faire ça. Et malheureusement pour lui, la course a été arrêtée en milieu parce que l'orage était vraiment violent et du coup la course a été annulée. Mais voilà, je vous conseille de regarder cette petite vidéo, c'est génial.
Raconter comme ça, ça a l'air génial. Titre,
au niveau de la qualité de l'eau, vu qu'on en a souvent parlé, à l'époque, avant que Jérémy, tu fasses du triathlon et cette Coupe du Monde, on nageait dans le Danube et le ponton, en fait, il était mis devant une sortie d'égout, mais c'était une bouche, mais énorme, et il l'a coupé style 10 minutes avant le départ. Donc, on plongeait dans la mer, en gros, et puis on faisait une espèce d'aller-retour dans le Danube. Et évidemment, il y avait du courant. Et moi, je me rappelle une année, il y avait tellement de courant qu'on n'avait pas réussi à remonter dans le sens inverse. Et du coup, ça courait sur les bords et il y avait tout le monde qui avait les pieds coupés et tout. Non, Ticho, c'est une course qui est juste légendaire, quoi. Pour mille raisons.
Ah bah tu vois, ça donne envie, ça aussi, finalement.
Non, ça, c'est clair que ça
donne envie. On en parlait tout à l'heure. Il y aura aussi l'Ironman Suisse. Donc ça, c'est chez toi, Mike, avec Yann Van Berkel, Maurice Clavel, normalement, au départ, Patrick Nielsen, Andreas Salvisberg, le Suisse, justement, et Rasmus Venningsen, côté français.
Et hop, parce que là, tout à l'heure, tu te moquais qu'il y avait le Frenchy Clark qui faisait des partenariats avec la sautiserie. Il y aura deux athlètes Frenchy Clark, il y a Yvan Jarige et Mathieu Bourgeois qui seront au départ.
Non, rectification, je ne me moquais pas du tout. J'étais, honnêtement, je suis fan de la sautiserie et donc je trouvais ça super sympa. Donc non, c'était pas du tout une moquerie. On aura aussi, est annoncé sur la start Cameron Wurf, mais lui, il enchaîne les courses... plus vite que Julien Pouton enchaîne les bonbons.
Ah ouais, donc il enchaîne vraiment. Niveau, il a fait Ironman Klagenfurt, la semaine d'après il a fait Ironman Nice, Et là, deux semaines après, Ironman ouais, Suisse.
J'y crois peut-être qu'il sera au départ. Après,
chez toi, sur tes terres.
C'est un personnage aussi au niveau de ce qu'il enchaîne à l'entraînement, puis dans ses courses de cycliste, parce qu'il est quand même cycliste pro. Et puis après, oui, ça va être une belle course. Puis le parcours de Thun, c'est un parcours qui est assez propice aux gars costauds au vélo. Donc, s'il est là, je pense qu'il peut, bien envoyer.
Ouais. Et Thun n'est pas Thun, hein. Vous avez bien compris la prononciation. C'est pas Thun, c'est Thun. Pourtant, bizarre pour la Suisse, mais moi, j'aurais dit autrement.
Bon, bonne course à Thun.
C'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer ce podcast épisode 18. Si jamais ça vous a plu, pensez au Buy Me a Coffee, pensez à vous abonner également à tous nos réseaux, à nous soutenir, à commenter, etc. Pour faire revenir Alex, parce que là, il boude. Comme personne ne lui a payé de café, allez-y, hein, versez les cafés pour faire revenir notre petit Canadien. Alors, on le retrouvera d'ici quelques semaines. On retrouvera également Jeanne Leher d'ici peu. Merci en tout cas à tout le monde. Merci Julien, merci Jérémy, merci Mike. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 19.
Hey, ciao les gars.